Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Au cœur de Toulouse existe un lieu de formation ouvert aux professionnels, notamment de la santé et du social, aux personnes en responsabilité pastorale, mais aussi au grand public, l'Institut d'études religieuses et pastorales. Un lieu pour approfondir sa foi chrétienne, se donner les moyens d'assumer au mieux ses engagements pastoraux ou se doter d'une formation anthropologique solide. Ce matin, je vous propose de partir à la découverte de ce lieu de formation. Voilà, donc pour parler de l'IERP ce matin, à la découverte de l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, je reçois trois compères, vous allez voir, on sent bien qu'ils se connaissent et qu'ils s'entendent. Odile Hardy, religieuse Xavière à Toulouse, directrice de l'IERP, bonjour.
Bonjour.
Le père Jean-Michel Poirier, vous êtes prêtre du diocèse de Montauban, exégète et membre de l'équipe de l'IERP, bonjour.
Bonjour.
Et le père Gilles Denroc, dominicain et membre de l'équipe de l'IERP, bonjour.
Toujours bonjour.
Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que c'est que ce lieu de formation, Odile Hardy? Mettez-vous à ma place ou à la place des gens qui viendraient d'arriver en région Midi-Pyrénées ou qui ne seraient pas familiers de ce lieu de formation. Dites-nous tout, présentez-nous l'IERP. Qu'est-ce que c'est que ce...
Alors, l'IERP...
Qu'est-ce qu'il y a derrière ce sigle?
Institut d'études religieuses et pastorales. L'IERP a été fondée il y a quelques années déjà, en 1969. Sa première vocation était la formation des religieux et religieuses. Aujourd'hui, l'IERP accueille un public très très varié. Le projet, c'est de permettre aux tout venants, mais aussi aux acteurs de l'Église, de pouvoir avoir une formation solide, aussi bien dans le domaine de la foi que dans le domaine de l'anthropologie ou dans le domaine de la santé. Voilà. Alors plus précisément, l'IAP fait partie de ce qu'on appelle le pôle de sciences religieuses de l'Institut catholique de Toulouse. Alors ce pôle comprend deux facultés, la faculté de théologie, la faculté de droit canonique, mais aussi d'autres organismes tels que l'IERP, c'est-à-dire l'Institut des sciences et théologie des religions, et aussi le Toulouse enseignement biblique. Donc voilà, il y a un gros pôle de sciences religieuses qui réfléchit aux questions de la foi. Et l'IERP a cette particularité de réfléchir plus proprement au rapport de la foi et du monde. Donc ça, c'est un accent propre que l'IERP veut honorer, une spécificité propre, d'où le fait qu'il s'intéresse, par exemple, au domaine de la santé ou aux questions plus anthropologiques.
Voilà. Alors, question suivante, à qui s'adresse ce lieu de formation? Qui vient? Vous avez combien d'étudiants et ce depuis combien de temps? Quel genre de personnes vous formez?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'IERP accueille des gens, ce qu'on va appeler in situ, c'est-à-dire dans les locaux de l'Institut catholique, mais l'IERP aussi assure des formations en partenariat avec des diocèses, Tulle, Auch, Tarbes, où ils travaillent avec des équipes locales. Alors, grosso modo, ça fait, avec tout ce monde en in situ et délocalisé, on a à peu près 300 personnes qui sont formées, voilà, en différents lieux.
Père Gilles Denroy, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette présentation? Pourquoi vous êtes retrouvé à l'IERP? Peut-être dites-nous.
Comme vous le savez vous-même, en tant qu'ancien missionnaire en Haïti, la question de la relation avec la culture locale, avec l'Église monde, le rapport Église monde, me passionne et me passionnera jusqu'à la fin de ma vie. Et donc, ça tombe bien d'avoir aussi ce rapport maintenant que je suis dans la région Midi-Pyrénées.
Ça veut dire quoi faire des allers-retours entre le théorique et le pratique, entre l'Église et le monde, Père Jean-Michel Poirier?
Oui, je voudrais justement ajouter qu'une des spécificités de l'IAP, c'est de réfléchir sur les pratiques ou à partir des pratiques. Réfléchir, évidemment, théologiquement à partir des pratiques. Se demander sur quoi sont-elles fondées, quelle est leur pertinence, comment est-ce qu'on pourrait mieux les axer, mais aussi, non seulement les fondements théologiques, mais aussi, donc, comme l'a souligné Sœur Odile, sur... les fondements anthropologiques, c'est-à-dire est-ce qu'elles correspondent vraiment à l'homme tel qu'il est aujourd'hui, à la société telle qu'elle est aujourd'hui. Tant entendu que si l'homme est permanent, la société ne cesse d'évoluer, voilà.
Est-ce que vous avez des exemples comme ça, de réflexion sur des pratiques? On va les développer au fur et à mesure, mais si vous deviez en tirer une pour illustration.
D'abord, on a un cours spécifique hein, de théologie des pratiques. Mais je crois que c'est plus une manière d'aborder les pratiques. Par exemple, en faculté de théologie, puisque j'enseigne également dans cette faculté, on va faire un cours sur l'Eucharistie, avec les fondements bibliques, les fondements patristiques, l'évolution de l'Eucharistie au cours des âges, pour en arriver à qu'est-ce que dit l'Église aujourd'hui sur la patristique, dans les conciles, les directives. Bon, voilà. Alors que la spécificité IAP, ça va être par exemple d'aborder l'Eucharistie à partir des pratiques. Quelles sont aujourd'hui les pratiques eucharistiques? Comment l'homme d'aujourd'hui ou le chrétien d'aujourd'hui, quel est son rapport à l'Eucharistie? Et on va partir de là pour ensuite aller l'éclairer par des fondements. Vous voyez, c'est le point de départ qui est différent. Je ne sais pas si je...
Si, je comprends à peu près. Comprenez bien. Je comprends à peu près. Enfin, j'essaye. Hein, je suis là pour ça. Oui. Odile Hardy, la première fois que vous m'aviez présenté l'IR, vous m'aviez dit justement, c'est un mode d'approche peut-être un peu différent. Vous avez dit, c'est très ignatien, alors que peut-être l'université catholique de Toulouse a réputation d'être assez thomiste. Alors est-ce que c'est quelle distinction il faut faire ou qu'est-ce qu'il y a comme substrat intellectuel derrière ce parti pris?
C'est vraiment un parti pris, on va pas marquer l'IERP du côté ignatien. D'abord, vous avez autour de la table un dominicain et une religieuse de la famille ignatienne, donc ce que vous dites va aller dans une contradiction. Voilà. Non, je crois que ce que le père Jean-Michel Poirier vient de dire est très juste. Il s'agit, je crois, à l'IERP, de considérer les acteurs de terrain et les hommes et les fois, et les hommes et les femmes dans leur contexte de vie quotidienne et de prendre en compte ces éléments de terrain, de pratique, pour réfléchir, hein, y mettre une réflexion de foi, une réflexion théologique. Alors on parle du P de l'IERP, du P de la pastorale, qui est à mon sens devenu aussi bien pastoral que pratique, parce que les acteurs, j'entends par acteurs, ce sont les hommes et les femmes de terrain, que ce soit en église, ou dans le domaine de la santé, de l'hôpital, ou que ce soit tout simplement la personne lambda qui a des questions sur son environnement familial, social, de travail. Voilà. Donc il ne s'agit pas du tout d'une sensibilité théologique ou voire d'une sensibilité de spirituelle, parce que je crois que toutes ces sensibilités peuvent être à l'honneur dans une réflexion théologique, et elles doivent l'être. Voilà, il n'y a pas plus une sensibilité qu'une autre. Il faut qu'on entende toutes les sensibilités, justement, pour pouvoir, en tant que croyant, en tant que chrétien, parce que la majorité des gens sont des chrétiens, mais pas que, on a aussi des quêteurs de sens qui passent par là, hein, et qui cherchent un sens à leur vie. Et je crois qu'ils ont besoin de tous ces ingrédients pour pouvoir être aujourd'hui des femmes et des hommes debout dans la vie, tout simplement. Et tant mieux si ce sont des chrétiens debout qui peuvent être heureux peut-être de servir leur église. Mais il y a cette petite phrase à laquelle on tient beaucoup, qui est la phrase de Pierre dans l'évangile, hein.
La première épître
de Pierre.
Soyez voilà. Toujours prêts à rendre compte ou à rendre raison voilà. De l'espérance, de votre espérance, ou l'espérance qui habite en vous.
Voilà. Cette petite phrase nous habite depuis des années, et je crois qu'elle dit bien quel est le projet de l'IERP.
Ce qui veut dire qu'en fait, vous dites qu'il y a aussi des gens qui cherchent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comment dire, il ne faut pas avoir la foi pour venir à l'IERP, on peut venir ici aussi pour se former, pour découvrir et pour faire du chemin avec vous.
Oui, bon, déjà je pourrais vous renvoyer la question, qu'est-ce que c'est que d'avoir la foi? Mais je crois qu'il y a des... Effectivement, il y a des personnes, en tout cas les primo-arrivants, dans nos parcours en sciences religieuses, pour quelques-uns, pas pour tous, hein, viennent parce qu'ils ont soit reçu un petit bagage et qu'ils l'ont perdu, soit parce qu'ils ont tout simplement des questions, effectivement plus de sens que de foi chrétienne. Alors ils ne sont pas majoritaires, bien évidemment, mais ils ont toute leur place là. Oui.
Alors, pour finir, avant qu'on fasse une première pause, dites-nous combien vous avez d'étudiants, quels sont, on va dire, les grands profils des étudiants, pour que les gens puissent peut-être l'avoir en tête, s'identifier, et puis en quoi ces formations sont diplômantes, et si oui, quel diplôme délivrez-vous?
Oui. Alors, combien d'étudiants? Je crois que j'ai répondu.
Oui, c'est ça.
Voilà. In situ, on a à peu près 120 étudiants, aussi dans les différents parcours que l'on propose. On y viendra, je crois, en deuxième partie. Ensuite, le profil des étudiants, c'est-à-dire je crois que j'y ai répondu. Il y a à la fois, pour beaucoup des hommes et des femmes qui veulent approfondir leur foi, hein, c'est sûr. Alors, profil, tranche d'âge, c'est très variable.
Voilà, moi c'était plutôt... Quelles sont leurs responsabilités? Je disais en introduction, oui. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui
font des responsabilités
pastorales.
Comme l'IERP, en sciences religieuses, propose une ou deux journées de formation, c'est assez pratique. C'est-à-dire que celui qui vient se former n'a pas à mobiliser une semaine pour venir à un cours à temps complet. Donc ils peuvent venir sur un jour. Donc il y en a qui prennent une journée durant une année. Voilà, pour se former. Donc il y a des jeunes professionnels, hommes ou femmes, qui le font. Il y a pas mal de retraités, et puis il y a des acteurs, des responsables d'église.
Jean-Pierre Jean-Michel Poirier.
Et il y en a qui, précisément, viennent aussi dans le cadre de la formation professionnelle. Je pense par exemple à des enseignants qui ont à assurer dans des établissements d'enseignement catholique la pastorale scolaire. Ou bien, enfin voilà, ou des salariés d'église qui, dans le cadre de la formation professionnelle, voilà, suivent des parcours IERP.
Et n'oublions pas un public qui est assez important, ce sont les religieux et religieuses qui, dans leur cursus de formation, prennent un an, deux ans pour se former, voire trois.
Alors, pour finir, qu'est-ce que vous délivrez comme diplôme? Qu'est-ce qu'il y a à la clé?
Alors, nous avons différents diplômes. En sciences religieuses, nous venons de remanier nos diplômes afin de permettre, en 2 ans en temps complet, d'obtenir l'équivalent de ce qu'on appelait autrefois les DUG, c'est-à-dire un diplôme universitaire en sciences religieuses. Alors, il y a les étapes intermédiaires, il y a des certificats universitaires en sciences religieuses. Il y a le certificat universitaire en pastoral propre, c'est-à-dire avec une spécificité, en choisissant un certain nombre de cours qui ont une spécificité pastorale et avec une pédagogie ce qu'on disait tout à l'heure, hein, en travaillant la pratique. Hein. Et puis, vous avez le diplôme et tout ça à temps plein en 2 ans ou, en modérant un peu son rythme, on peut le faire sur 3 ans, sur 4 ans aussi.
Même sourire d'enfant, même air qu'on respire en même temps, même cœur battant, même air qu'on entend en même temps. Oh, 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 oh. Pourtant seul, seul sur terre, certains ils vont sans maison, sans raison, sans amour certain, comme ça, le froid sur leurs mains. Oh, 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 oh. Jésus, l'entends-tu, ces filles et ces garçons perdus? Ne sont-ils pas assez précieux du haut de tes yeux délicieux? Oh Jésus, roi du ciel, nos âmes volent avec leurs ailes. Toi tu choisis lesquelles, même désir d'amour. Les mêmes, je t'aime toujours. Même navire pourtant, même vague et même vent. Oh, oh, oh. Pourtant rien, rien à faire certain, à côté chemin, ils vont sans rien, sans espoir le matin, le soir. Oh, 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 oh. Jésus, l'entends-tu, ces dames et ces messieurs pieds nus, ne sont-ils pas assez gracieux, trop bas pour tes yeux délicats. Oh Jésus, roi du vent, nos âmes volent pareillement. Toi tu choisis comment, même, même vie devant, et tant de destins différents. Pour l'un facile, pour l'autre un chemin difficile. Pour l'un facile, pour l'autre un chemin difficile, si différent.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission donc ce matin à la découverte de l'IERP, Institut d'études religieuses et pastorales, ou à la redécouverte, avec sur ce plateau, autour de ce plateau, pardon, Odile Hardy, religieuse Xavière à Toulouse, directrice de l'IERP, le père Jean-Michel Poirier, prêtre du diocèse de Montauban, exégète et membre de l'équipe de l'IERP, et le père Gilles Denroc, dominicain et membre de l'équipe de l'IERP. Alors, maintenant que vous nous avez présenté ce lieu de formation, détaillez-nous. Donc vous avez trois grands parcours, Odile, parcours en sciences religieuses, parcours de théologie des pratiques et parcours de formation pour la mission en église. Alors je vous laisse peut-être présenter l'ensemble et puis après on détaillera et mettez-vous à la place de tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas savants.
Voilà, trois parcours qu'on a voulu vraiment distinguer. C'est-à-dire, alors le parcours des sciences religieuses, c'est celui qui est le principal parcours à l'IERP, ce pourquoi les gens viennent en général, c'est celui dont on a le plus parlé dans la première partie. C'est celui qui permet aux personnes, soit en responsabilité d'église, soit au tout venant qui se pose des questions sur sa foi, qui veut approfondir sa foi, soit celui qui est plus du côté de la quête de sens, de venir trouver dans ces parcours qui sont des parcours qui ont lieu les lundis et mardis sur une année, hein, sur deux semestres, de venir trouver donc différentes matières, de différents cours pour nourrir leur foi, pour nourrir leurs questions. Alors on a des cours aussi divers que d'abord c'est toujours, le parcours commence toujours par la Bible, voilà, et puis l'anthropologie, la christologie. Donc on détaillera tout à l'heure, je laisserai la parole à mes collègues. Le deuxième parcours est le parcours en théologie des pratiques, où l'on trouve...
Juste, déjà, ça veut dire quoi, théologie des pratiques?
Alors, c'est une réflexion à partir de la pratique. Voilà, on part de la pratique et on vient y mettre une réflexion théologique. Voilà. Comment le regard de foi peut venir éclairer nos pratiques. Donc là, vous trouverez essentiellement pour l'année qui vient les parcours de santé. Mais il y avait aussi le parcours d'anthropologie qui connaît une pause. Et le dernier parcours, qui n'est pas le moindre, c'est le parcours de formation en mission d'église qui concerne à la fois des formations in situ, comme le parcours pour les prêtres de Fidei Donum, on en parlera aussi, mais tous ces parcours en partenariat avec les différents diocèses, des parcours auxquels on tient, puisqu'on travaille avec des équipes locales. Voilà, en gros, les trois grands parcours.
Alors, je crois que je ne vous ai pas posé la question en première partie. Vous arrosez, si je puis dire, en fait, sur combien de diocèses, sur quoi, sur tout le Grand Sud-Ouest?
Alors, je vais laisser Jean-Michel répondre.
Père Jean-Michel Poirier.
Essentiellement sur les diocèses de la province de Toulouse, mais nous avons aussi vocation à nous étendre à nous mettre au service plutôt, des diocèses ou d'étudiants provenant des diocèses, de ce qu'on appelle le ressort académique de l'Institut catholique de Toulouse, qui est, je crois, de 17 ou 18 diocèses, en particulier sur la province de Montpellier, et donc ça correspondrait à la nouvelle région, si vous voulez. C'est-à-dire que voilà, les diocèses de Carcassonne, de Perpignan, voilà, peuvent faire appel à nous. Nous travaillons aussi en collaboration. Une collaboration est envisagée avec Montpellier, etc. Voilà.
Voilà, donc on a compris, vous êtes à la pointe de la modernité, parce que vous avez même anticipé le nouveau découpage régional.
C'est l'Institut catholique qui a anticipé.
En effet, c'est l'Institut catholique, c'est vrai. Dites-nous, donc vous, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce parcours en sciences religieuses? J'ai sous le nez les matières, mais je pense que vous nous ferez entrer dans l'architecture de cette formation plus savamment que moi.
Alors, ce qui est nouveau à partir de l'année prochaine, jusqu'à présent, nous avions trois journées, un parcours sur trois journées par an. Donc, il y avait une première année qui est une année d'initiation, le lundi, et puis ensuite, l'étudiant était invité à faire une année dite A. De plus approfondissement, A et B, donc un lundi et un mardi, voilà, qui étaient plus des années d'approfondissement. À partir de la rentrée 2016-2017, nous passons à quatre journées, c'est-à-dire que nous aurons des cours toutes les semaines, et le lundi et le mardi. Alors le lundi de la première année, enfin l'initiation s'étend un petit peu, se développe, mais intègre en même temps des cours qui autrefois étaient dans les années A et B. Donc on a une première année d'initiation avec des cours le lundi et le mardi. Donc les étudiants peuvent faire sur un an s'ils peuvent se rendre disponibles le lundi et le mardi.
Donc c'est le lundi et le mardi en journée.
En journée. Ou bien le faire s'ils ne peuvent disposer que d'une seule journée dans leur semaine, et à ce moment-là, ils le font sur deux ans, une année le lundi, l'autre année le mardi, voilà. Et puis ensuite, nous avons une seconde année dite d'approfondissement, là aussi avec des cours et le lundi et le mardi. Donc effectivement, les cours sont concentrés. Alors effectivement, ça demande beaucoup de travail en présence pendant cette journée. En gros, ils ont quatre cours par journée, avec soit des cours magistraux, on va dire, soit des séances de travaux dirigés. Mais ils sont également invités à un travail personnel, donc ça qu'ils sont invités à faire le restant de la semaine, quand ils le peuvent, et en fonction de leurs possibilités. Et ça va être un travail d'intégration des données du cours, mais aussi un travail de lecture. Et puis nous développons aussi un travail grâce à une plateforme qui s'appelle Moodle, mais qui est utilisée par les universités dans le monde en général, hein, et dont le frère Gilles peut maintenant, puisqu'il le pratique lui-même, Moodle, vous donner une approche et un exemple.
Avant qu'il nous parle de Moodle, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces formations? Parce que là, vous avez décrit l'architecture.
Qu'est-ce qu'on y apprend? Il y a effectivement des cours de Bible, ou à partir de la Bible. Il y a également quelques cours de philosophie, parce que c'est important d'avoir quelques bases philosophiques pour entamer un cursus plus théologique. On va avoir des éléments d'histoire de l'Église. On va avoir une réflexion ou une présentation du Concile Vatican II, de ses grands documents, mais aussi de son esprit. Et puis alors ensuite des cours, effectivement, sur les fondements de la foi, ce qu'on appelle la Christologie, Jésus, Christ et Seigneur, ou bien des éléments sur la morale, l'éthique de la vie. Et puis, on va avoir également des cours plus pratiques, on peut dire, hein, enfin, ou plus en relation avec la pratique de l'Église, en particulier la pratique sacramentelle. C'est là où je disais tout à l'heure que, par exemple, le cours sur l'Eucharistie va partir désormais de la pratique que les chrétiens ont aujourd'hui de l'Eucharistie. Voilà.
Alors, sur Moodle, ça vous est...
Ah oui,
ça
moi je suis à la fois apprenti, ah ben c'est toujours là, je suis à la fois apprenti et pratiquant de cette chose. Le Moodle, c'est l'enseignement en ligne, et l'Institut catholique de Toulouse insiste beaucoup pour que de plus en plus nous puissions nous servir de cet outil qui nous permet de rejoindre des gens qui n'habitent pas Toulouse ou qui ont des difficultés avec les horaires. Et alors, dans le sens de ce que vient de développer le père Jean-Michel, je dirais que ça permet, en appui du cours présentiel et du cours classique, des lectures classiques, des bibliographies qu'on donne à chaque cours, ça permet aussi d'avoir accès à des documents très divers, qui peuvent être des textes, qui peuvent être aussi des diaporamas, des vidéos, qui actualisent et qui, justement, vont permettre de partir de la réalité culturelle de notre époque pour faire le lien avec le thème développé en cours sur la foi.
Vous auriez un exemple?
J'insiste aussi là-dessus, les liens avec l'international. C'est-à-dire qu'il y a des pays francophones qui peuvent tout à fait avoir des liens avec l'Institut catholique de Toulouse. Je pense en particulier aux Antilles, en Afrique, l'océan Indien, où on peut avoir là des liens d'avenir et un potentiel, une réserve d'étudiants que nous ne connaissons pas encore.
Alors, oui, Odile,
juste un petit mot sur l'intérêt de modifier quelque peu nos propositions. C'est de pouvoir serrer un petit peu les affaires pour les religieux et religieuses, par exemple, qui souhaitent faire un cursus en un temps plus réduit, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et donc actuellement, en proposant cette nouvelle mouture, ce qu'on appelle les L1, L2, avec un projet bien évidemment de mettre un L3, donc une licence propre en sciences religieuses, nous permettons à des congrégations religieuses, et nous souhaitons les accueillir d'ailleurs, de pouvoir envoyer, par exemple, des religieux et religieuses qui seraient à l'étranger, les envoyer à l'IR pour un cursus de 2 ans, boucler vraiment une formation en 2 ans, voire en 3 ans, et repartir avec une formation propre en sciences religieuses. Voilà, ça a tout son intérêt. Alors, c'est vrai, ce n'est pas vrai que pour les religieux et religieuses. Nous avons aussi quelques séminaristes qui viennent là. Voilà.
Des religieux et des religieuses qui nous écoutent. Avec le directeur de la radio, on se balade d'une communauté à l'autre et on est surpris de voir à quel point ils écoutent la radio. Donc, je pense que le message passe. Alors, deuxième parcours, le parcours de théologie des pratiques. Vous avez présenté brièvement. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu par exemple, vous dites que ça s'adresse donc aux gens qui sont, qui travaillent dans le monde de la santé. Oui. Donc, je travaille dans le monde de la santé. Je sais pas, je suis infirmière, aide-soignante, médecin. Je viens toquer à votre porte. Qu'est-ce que je vais trouver dans cette formation ?
Alors, actuellement, c'est moins pour les acteurs, les professionnels de la santé. Ce qui va s'ouvrir dans le courant de l'année 2017, ce sera une nouvelle formation qui existait autrefois pour les aumôniers en milieu hospitalier. Parce qu'actuellement, il y a quand même un enjeu à faire valoir la présence de ces aumôniers en milieu hospitalier. On connaît tous les enjeux qu'il y a autour des rapports entre laïcité et religion. Alors, il y a des décrets du ministère qui sont sortis là-dessus. Donc, nous avons le souci pour l'Église et pour ces acteurs d'Église que sont les aumôniers en milieu hospitalier de leur proposer une formation certifiante. Alors, c'est typiquement une formation aussi continue, une formation professionnalisante, puisque l'aumônier qui est en milieu hospitalier, il dépend à la fois de l'Église, mais aussi de la direction du service hospitalier.
Quand vous dites qu'il y a des décrets qui sont sortis, que disent ces décrets ?
Ces décrets, par exemple, demandent un certain nombre d'heures en laïcité, d'avoir une formation qui tient compte de 72 heures de formation en laïcité, sur la laïcité. Donc nous, il nous faut intégrer ça dans nos propositions, mais il faut aussi pouvoir proposer à l'aumônier qui sera en hôpital une formation propre en théologie, une réflexion sur sa pratique théologique proprement chrétienne. Donc nous réouvrons cette formation qui existait il y a 5 ans pour permettre à ceux qui sont déjà en place, à ceux qui seront en responsabilité, envoyés dans des équipes ou responsables d'une équipe d'aumônerie, de pouvoir être certifiés dans ce qui est aujourd'hui un métier et avoir aussi, c'est tout l'enjeu, des prises en charge.
Alors, même chose, c'est-à-dire c'est quand, ça dure combien de temps et qu'est-ce qu'on y apprend ?
Alors,
exactement, quelles sont les matières ? Je ne sais pas qui sont.
Les matières sont ensemble. Il y a deux types de formations en santé. Il y a une formation initiale qui va délivrer un diplôme initial en pastorale de santé, qui à l'origine se faisait à Albi, mais qui va être ramené cette année sur Toulouse, et qui prend peut-être le tout venant de la santé, quand je dis le tout venant dans le monde de l'Église, c'est-à-dire à la fois ceux qui font partie des équipes d'aumônerie, mais aussi ceux qui sont des visiteurs à domicile, etc. Le SEM, le service évangélique des malades, voilà. Ça, c'est le tout venant qui a plutôt une formation sur l'écoute, sur la place de l'aumônier, de l'aumônerie, voilà. Mais ce sont des formations plus sur le métier propre, voilà. Le deuxième niveau, qui est un niveau universitaire, qui va être le certificat universitaire en pastoral de la santé, réintroduit donc un certain nombre d'heures sur la laïcité, des heures en théologie propre, en morale, des questions sur le travail en équipe, donc vous voyez, des questions plus anthropologiques, plus théologiques, des questions plus sacramentelles. Comment est-ce qu'on célèbre dans le monde hospitalier ? Comment est-ce qu'on prend en compte les autres religions ? Voilà, quel est le rapport entre l'aumônier, l'aumônerie et le monde hospitalier ? Donc toutes ces questions très diverses. Alors ces deux formations, alors la première, la formation initiale commence en octobre, se déroule sur une année. la formation plus approfondie, plus universitaire, qui sera d'ailleurs destinée plus à ceux qui sont en responsabilité en tant qu'aumônier, démarrera en janvier 2017, sur une année. Une année, du coup, une année de janvier.
Alors, je ne vous ai pas posé la question, je crois, jusque-là. Toutes ces formations, elles ont un coût, j'imagine.
Oui.
Ça coûte combien? Et est-ce qu'on peut faire prendre en charge ces formations? Et si oui, comment?
C'est... Absolument, c'est une très bonne question, je vous remercie. Oui, elles ont un coût. Donc,
on en a eu au moins une.
Non, il y en a d'autres. Elles ont un coût. Donc, il est proposé, notamment sur ces formations de santé, deux types de tarifs. Le tarif pour ceux qui viennent et qui n'ont pas de prise en charge, et un tarif de prise en charge. Donc, celui qui s'inscrit le demande au secrétariat. En général, c'est imprimé sur les tracts aussi. Donc, il y a deux types de tarifs pour toutes les formations qui supposent des prises en charge. Voilà, la santé, c'est le cas.
D'accord, mais quand vous pouvez donner un ordre de grandeur peut-être quand même ou...
L'ordre de grandeur varie, donc si c'est une formation initiale, c'est autour de 300 euros sans prise en charge, et vous pouvez multiplier, c'est à peu près 900 euros quand c'est pris en charge. Pour la formation plus universitaire, c'est 600-700 euros, et la prise en charge va jusqu'à 1300 euros.
Alors, on continue
À l'année, hein, pour l'année.
On continue donc le paysage de l'IERP, troisième grande formation, donc parcours de formation pour la mission en église. Alors c'est un peu les mêmes questions, mais c'est un peu le propos de l'émission. À qui ça s'adresse? Alors vous avez commencé à le dire, hein, mais je vous demande évidemment de le préciser. Et combien de temps ça dure et qu'est-ce qu'on y fait? Alors je me tourne vers cet acquis, le père Jean-Michel Poirier.
Alors là nous avons... comme pour les autres domaines, des formations que nous proposons sur Toulouse. Alors par exemple, on peut donner une nouvelle formation, l'exemple d'une nouvelle formation qui s'ouvre à la rentrée prochaine pour les prêtres de plus en plus nombreux qui viennent d'autres diocèses et d'autres pays, voire d'autres continents, pour exercer un ministère pastoral en France. Alors on appelle ça les prêtres Fili Donum. Pendant longtemps, on a eu des prêtres français qui partaient comme Fili Donum, par exemple en Afrique. Et aujourd'hui, on a par exemple de plus en plus de prêtres africains qui viennent exercer pendant 3 ou 6 ans un ministère pastoral en France. Et alors, en Colombie, il y a une formation, une semaine, si vous voulez, d'initiation qui est proposée par le service de la mission à l'extérieur de l'Église de France, une session qui s'appelle Welcome, mais il a semblé que c'était profitable, en complément de cette session Welcome, de proposer aux prêtres de nos régions de se retrouver grosso modo pour 7 sessions, chaque session étant de 2 jours à Toulouse. Et donc il y a d'abord l'intérêt de se retrouver ensemble, de se connaître, cet aspect de groupe. On va beaucoup travailler les questions d'interculturalité. Donc comment se positionner, comment se situer, quelles sont les questions que pose leur situation. Ils viennent d'Afrique, d'Amérique latine, de Madagascar, voire d'autres pays européens. Quels sont à la fois les problèmes, les difficultés, mais aussi les chances et les opportunités que cela représente d'exercer un ministère pastoral en France. Et puis, c'est aussi leur permettre d'intégrer aussi un petit peu des éléments d'histoire de l'Église en France, aussi de problématiques particulières à notre pays, de savoir où est-ce qu'on en est actuellement, la pastorale en France, quelles sont les questions qui se posent, quelles sont les initiatives, quels sont les grands textes aussi. Et puis il y aura aussi dans cette formation des questions très pratiques concernant la santé, le rapport au corps, des éléments financiers, connaître par exemple...
Le rapport au corps, pardon, vous pouvez préciser, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est la santé. Hein, c'est surtout la santé, la nourriture, et puis aussi les relations prêtres-laïcs, comment ça se joue aujourd'hui en France, c'est pas nécessairement la même manière que ça se joue ailleurs. Puis s'ils deviennent, comme la plupart d'ailleurs, curés de paroisse, il faut qu'ils connaissent les lois françaises sur la laïcité, la loi de 1905, qu'est-ce que ça engage pour un responsable de paroisse, etc., etc. Donc on va leur proposer, sur le parcours d'un an, voilà, beaucoup d'éléments dans tous les domaines que je viens d'énumérer et dans d'autres encore, afin de leur permettre, et je pense que l'idéal serait que ces prêtres puissent pendant un an suivre cette formation, et en étant quelque part en stage auprès de prêtres français, de manière à ce qu'au bout d'un an, ils puissent se voir confier effectivement des responsabilités importantes, enfin, responsables de paroisse ou aumônerie, que sais-je,
et cette dans le diocèse. Cette formation est en semaine aussi ou c'est
quelque chose? Oui, c'est en semaine, c'est le lundi et le mardi, donc une fois par mois.
Alors on continue pour cette formation pour la mission en église, donc il y a deux autres volets si je ne me trompe pas, donc formation des laïcs en église et puis la formation au diaconat permanent, est-ce que vous pouvez nous préciser de
oui.
quoi il s'agit?
Je veux juste, sans revenir trop en arrière, la formation sur la santé sont aussi des modules, des sessions hein, ponctuelles, cette session sur une année. Alors la formation des diacres permanents, c'est un partenariat qui existe depuis quelques années déjà avec l'IERP, donc sous forme aussi plutôt de week-end. Et alors c'est un partenariat avec la province, avec la formation diaconale de la province, donc vous avez très largement des diacres et leurs épouses qui viennent se former sur, alors il y a deux niveaux de formation sur, grosso modo c'est sur 5 ans de formation à peu près.
D'accord, et la formation des laïcs en église c'est...
Alors des laïcs en église c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est les partenariats avec, par exemple nous avons un partenariat avec Tarbes, avec Auch, avec Tulle, nous travaillons avec des équipes locales, nous pensons ensemble la formation, nous pensons ensemble quels sont les intervenants, et en général on essaie d'équilibrer, soit on prend des intervenants locaux et puis des enseignants de l'IERP, mais c'est une équipe locale à qui est confiée cette formation, et ponctuellement nous venons faire le bilan avec eux, voilà.
Voilà, je suis sûr que nos auditeurs, en tout cas, ont bien noté tout ça. Et puis, de toute façon, on donnera toutes les informations pratiques et peut-être pour renvoyer vers un site internet à la fin de l'émission. On fait une deuxième pause et puis après, on rentrera dans quelques détails de cours et de sessions pour vous mettre l'eau à la bouche.
La radio qui élève.
Accueilli dans les parvis du roi, je suis introduit dans ta présence. Je suis là sur le lieu de ta grâce, pourtant je m'avance avec révérence. Accueilli dans les parvis du roi, je suis introduit dans ta présence. Je suis là sur le lieu de ta grâce, pourtant je m'avance avec révérence. Et je tombe face à comparable à toi, et qui sur la terre est ton égal. Tu es élevé bien au-dessus de tout.
l'Église, Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, donc, si vous nous prenez en cours de route, une émission à la découverte de l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, et autour du plateau, trois compères, Odile Hardy, religieuse Xavier à Toulouse, directrice de l'IERP, le père Jean-Michel Poirier, prêtre du diocèse de Montauban, exégète, membre de l'équipe de l'IERP, ils ont presque leur t-shirt IERP sur eux, et le père Gilles Doroc, dominicain et membre de l'équipe de l'IERP. Voilà, en tout cas, vous serez pour le moment très bien accueillis, et si les cours sont passionnants, l'équipe a l'air d'être fort sympathique. Père Jean-Michel Poirier, Père Gilles Doroc, vous vouliez faire une précision en disant c'est important de se former et c'est important aussi pour les communautés religieuses, peut-être pour les pasteurs qui nous écoutent, les membres d'équipes d'animation pastorale, voilà, de se dire que la formation n'est pas une option.
Non, c'est une nécessité dans la culture contemporaine. On voit que le niveau culturel ne cesse d'augmenter, les formations diplômantes après le bac se multiplient, les recyclages, et donc on ne peut pas, l'Église ne peut pas rater le coche d'une formation pour les adultes, d'une formation permanente, d'une formation diplômante, d'une formation de bon niveau pour que nous puissions être tout simplement témoins du Christ dans cette culture-là. Et là, c'est là que c'est à la fois un désir profond d'évangélisation et en même temps la réalisation par des acteurs de terrain qui sont justement confrontés tout le temps à d'autres types de formations. Comment ils vont harmoniser les choses ?
Odile Hardy, est-ce que vous êtes satisfait du nombre d'étudiants que vous avez ou est-ce que à chaque année vous vous dites mais c'est pas possible, il nous en faudrait 10 fois plus ?
Que je ne raisonne pas en ces termes, mais certes, à la place où je suis, on en veut toujours plus. Mais je crois que ce qui importe, c'est ce que vient de dire le frère Gilles, c'est de penser à ce tissu ecclésial aussi, qui a besoin d'acteurs solides, de chrétiens debout pour témoigner de leur foi. Et ça, ça passe par la formation. On ne peut pas ne pas penser à former nos chrétiens. Et là, j'en appelle vraiment aussi à nos évêques, qu'ils prennent le temps d'envoyer des gens en formation. C'est bien, on peut avoir différents niveaux de formation, mais il faut toujours penser qu'il y a aussi besoin de formateurs sur le terrain. Hein. Former d'abord l'ensemble des chrétiens, voire d'autres personnes. Mais je crois qu'on ne peut pas faire fi de la formation aujourd'hui. C'est d'abord pour l'Église que cela importe, moins pour l'institution qui a besoin de faire nombre. C'est un service. L'IAP rend un service à l'Église et au monde. Et ça, je crois que c'est ça que nous tenons avant de chercher le nombre d'étudiants. Nous cherchons à rendre un service et à faire que les acteurs et que les chrétiens, comme vient de le dire Gilles, puissent témoigner de cette vitalité de l'esprit et qui souffle en chacun.
Qui dit formation dit prendre du temps. Je me permets de rebondir comme sur ce que vient de dire Odile Hardy. Les prêtres sont souvent, on va dire, plus que débordés. Parfois, la logique ecclésiale, c'est comme on n'est pas nombreux, chacun doit être à 140%. Et donc, la formation, c'est manger du temps sur ces 140. Et du coup, on n'en a plus que 80. Je ne sais pas, est-ce que vous avez peut-être une réflexion sur...
Là, vous n'abordez qu'un tout petit point, c'est-à-dire la formation des prêtres. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de laïcs qui sont amenés à prendre des engagements, à prendre des responsabilités dans les communautés d'église. Et il faut absolument qu'ils aient une formation. C'est-à-dire que tous, nous devons avoir une formation. Alors, à la fois, il y a des besoins de l'église qui a besoin d'avoir des responsables, des personnes engagées qui aient la formation adéquate. Mais il y a aussi, moi je l'observe sur le terrain, une demande aussi tout simplement de beaucoup de personnes de tout simplement comprendre qu'est-ce que c'est que cette foi chrétienne, qu'est-ce qu'elle dit, quel propos tient-elle et sur Dieu et sur l'homme et sur la relation entre Dieu et l'homme. Et donc il y a aussi une demande de la part, non seulement je dirais des membres du peuple chrétien, mais aussi de beaucoup de personnes aujourd'hui, et il faut l'honorer.
Et très très brièvement, on ne peut pas non plus faire fond uniquement dans une vie d'aujourd'hui et de demain sur une formation initiale. Il y a une formation permanente, des remises à niveau, des recyclages. Il faut tout le temps lire, relire, approfondir et ça ne peut pas se faire seul. Hein. On n'est pas chrétien tout seul, mais on n'est pas non plus témoin tout seul. Il faut créer du sens et à la quête de sens dont a parlé Odile Hardy, mais aussi une quête de lien, la qualité des liens que nous formons, la qualité de l'écoute de l'autre, la qualité des prises de décision ensemble, des célébrations, etc. Tout cela est en jeu.
Alors, pour finir, je vous avais demandé donc de donner, on va dire, un exemple peut-être de cours, puisque le temps passe, et un exemple de session pour nous mettre l'eau à la bouche. Je commence avec vous, Père Jean-Michel Poirier. Donc, vous donnez un cours, entre autres, parmi, j'imagine, vous donnez d'autres cours, j'en suis même presque sûr. Bible et liturgie, les psaumes et épîtres aux Hébreux. Alors, vous n'allez pas nous faire un résumé du cours en 5 minutes, mais est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de ce qu'on apprendrait dans ce cours-là ?
Alors, c'est un cours qui s'adresse à des étudiants qui ont déjà eu d'abord un premier aperçu de la Bible en général, de ses genres littéraires, etc. Bon, c'est un cours que je vais proposer l'an prochain en complément des cours de Bible qui se donnent aussi à la faculté de théologie, puisqu'on ne propose aucun cours sur les psaumes, ni aucun cours sur l'épître aux Hébreux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'un est dans l'Ancien Testament, l'autre est dans le Nouveau Testament, et tous les deux ont à voir avec la liturgie, puisque les psaumes, c'était le livre de prière du Second Temple, mais c'est aussi devenu le livre de prière de l'Église, puisque la prière des heures s'articule essentiellement autour des psaumes. On les a dans chaque liturgie de messe, puisqu'après la première lecture, on a toujours un psaume, ainsi de suite. Et puis l'Épître aux Hébreux, elle part de la liturgie du Second Temple, mais pour élaborer une réflexion sur le Christ, à partir de cette figure du prêtre, et plus précisément du grand prêtre, mais également du sacrifice, etc. Et donc c'est en relation avec la liturgie, mais en même temps, donc on va partir de là pour visiter ces deux ensembles littéraires, mais aussi ensuite en voir les retombées, à la fois pour la vie de foi, pour la vie de prière, pour la vie spirituelle, mais aussi pour la vie ecclésiale, et notamment pour le rapport à la liturgie.
Alors moi, j'ai aujourd'hui une autre question un peu plus simple, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi des personnes, en tout cas je pense à certains des éditeurs, qui se freinent aussi dans ce désir de former parce qu'ils peuvent être intimidés par ce type de formation. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui n'osent pas sauter le pas parce qu'ils se disent bon, ça c'est pas mon niveau, Odile Hardy?
Qu'ils viennent nous voir déjà. Toute inscription suppose une rencontre avec un des membres de l'équipe. Donc, et ce n'est pas simplement au moment de l'inscription. L'IAP propose aussi tout au long du parcours, à chaque étape, à chaque choix, que ce soit le choix d'une journée, d'une demi-journée, d'un cours, ça ou là, de rencontrer un membre de l'équipe qui va le suivre personnellement tout au long de ses études. Donc il y a vraiment un accompagnement. On ne laisse pas l'étudiant sans connaissance de non seulement de la matière propre qui sera enseignée, mais aussi on prend en compte tout ce qui interfère, où il en est, quel est le chemin qu'il peut faire, qu'est-ce qui sera bon pour lui. Et cet accompagnement personnalisé est très important à l'IERP. Donc que quelqu'un n'arrive pas comme ça sans être pris en charge tout de suite.
Père Gilles Noroc.
Encore très brièvement, la pédagogie à l'IERP est très importante. Il ne s'agit pas d'accumuler des savoirs, donc des connaissances avec différents types d'acquisition des connaissances. Il y a aujourd'hui, dans les matières que nous travaillons, beaucoup de manuels, il suffit souvent d'aller à Wikipédia pour trouver des références, des bibliographies. Ce qui nous importe, bien sûr, c'est de savoir que le savoir est à acquérir, c'est une discipline, c'est une sorte de mise en mouvement de son intelligence, de sa mémoire. Il faut toujours s'exercer, faire ses gammes et travailler sur les savoirs. Mais presque 50-50, je dirais, dans un cours de l'IERP, il faut se demander comment les personnes, les étudiants qui sont là, vont s'approprier ces savoirs et comment ils vont pouvoir aussi transmettre, restituer ce qu'ils ont appris à connaître et ce qui est devenu quelque chose de leur témoignage, comment ils vont pouvoir faire des différents groupes. On parlait de la Bible, on peut parler de la liturgie, on peut parler de toutes les grandes questions qui se posent aujourd'hui aux gens. Donc s'approprier le savoir pour le restituer et le donner.
Alors on va finir par un exemple de session. Alors vous pouvez peut-être en deux mots, je crois qu'on l'a évoqué, mais nous redire ce que sont ces sessions. Donc il y a les sessions, on va dire, à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis nous donner un exemple d'une de ces sessions. Alors c'était peut-être pas à Maurice Laetitia, mais ça sera accueil pastoral avec vous, Jean-Michel Poirier.
Oui, donc parmi les sessions à Toulouse, il y en aura une qui va ouvrir le banc au mois d'octobre. Le banc, j'ai volontairement choisi ce vocabulaire puisqu'elle sera sur le couple et la famille à partir du document que vient de l'exhortation apostolique post-synodale que vient de publier le pape François, donc à Maurice Laetitia, la joie de l'amour. Et puis nous développons également des sessions, alors cette fois-ci au service des diocèses, au service des diocèses ou de secteurs paroissiaux par exemple. Alors nous avons par exemple l'accueil pastoral, ce serait une session de 6 heures. Alors nous avons à bâtir avec les acteurs de terrain, à voir comment des personnes du terrain peuvent intervenir dans cette session. Nous avons un schéma, une pédagogie, puis bien sûr des intervenants qui peuvent venir aider et soutenir les équipes de terrain. Nous en avons une autre qui s'intitulera les mots pour le dire, une autre apprendre à mieux à travailler en équipe, gestion des conflits et du stress, se ressourcer dans sa mission, la lecture des textes du magistère, et puis monothéisme et violence. Voilà toutes sortes de sessions qu'on peut accueillir, des sessions IERP ou d'où l'IERP assure l'engineering et qui peuvent être accueillies dans des paroisses, dans des diocèses, dans des centres de formation, mais hors de Toulouse.
Odile Hardy,
à Toulouse aussi d'ailleurs. Enfin.
Pour finir, les informations pratiques, comment on fait si on a envie de prolonger la rencontre ?
Alors, si on veut prolonger la rencontre, bien sûr, il faut soit téléphoner à l'IERP, il y a un numéro de téléphone qui... Alors, je le cherche, voilà. Vous adressez au secrétariat de l'IERP et vous demandez à rencontrer un des membres de l'équipe. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 05 62 26 58 84. Voilà, 05 62 26 58 84. Vous pouvez aussi vous adresser au secrétariat de l'IERP, donc secrétariat.ierp@ict-toulouse.fr.
Voilà, merci beaucoup à nos invités d'être venus nous parler donc de l'IERP. Merci beaucoup.
Merci
Cette émission
vous.
A été réalisée par Quentin Espitalier. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.